J'ai mis ici en haut, vous avez là, entre les mains, ce texte qui est sorti de l'institution chrétienne de Calvin, qui donne une définition, qui donne sa définition de la prédestination. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque homme. Car il ne les crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à vie éternelle, les autres à éternelle damnation. Ainsi, selon la fin à laquelle est créé l'homme, nous disons qu'il est prédestiné à mort ou à vie. C'est une formule assez réduite dans laquelle il définit la façon dont il le voit. Dans les lignes qui suivent, j'essaie de résumer un petit peu cette position-là des réformateurs qui est acceptée aujourd'hui par un bon nombre de chrétiens réformés, pour prendre quelque chose de général. Il ne faut pas oublier que les réformateurs se sont donné comme tâche de réagir contre l'Église catholique qui avait enseigné, pratiqué et fait pratiquer le salut par les œuvres pendant des siècles. Donc les réformateurs vont ressortir cette notion de salut par la foi, et en réaction au salut par les œuvres, ils vont aller de l'autre côté, parce que dans le salut par les œuvres, nous avons une part. Je dois faire ça, payer ceci, et si je fais tout ça, alors j'ai des bons points en vue de mon salut. En réaction, les réformateurs et les protestants vont dire « L'être humain n'a rien à faire dans son salut. Tout est grâce, pure grâce. » Et en allant dans cette direction-là, ils ont même enlevé le libre choix. Donc il s'agit là vraiment d'une réaction forte contre le salut par les œuvres qui était enracinée très profondément à ce moment-là. Alors évidemment, ça pose tout un tas de problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette grâce si elle est accordée à quelques-uns et pas à tous? Qu'est-ce que c'est que cette justice de Dieu si la grâce est donnée à certains et pas à d'autres? Alors, il donne une illustration qui est intéressante, mais qui ne correspond pas à l'enseignement biblique. C'est l'histoire, par exemple, de cette prison dans laquelle il y a 100 prisonniers et quelqu'un décide d'en libérer 20. On libère 20 qui sont heureux de pouvoir sortir, c'est-à-dire qu'ils ont une liberté imméritée, mais les autres restent dedans. Et eux, il n'y a aucun tort qui leur est fait parce que, de toute façon, ils sont dedans parce qu'ils le méritent. Et ils disent, voilà, c'est la grâce de Dieu, c'est cette grâce extraordinaire qui se donne aux 20 qui sont là. Mais les autres ne perdent rien, de toute façon, ils sont condamnés. Ça, c'est une illustration pour présenter cette notion de prédestination. Mais le problème, c'est que la grâce de Dieu dans les Écritures n'est pas présentée comme sélective. Et là, on va le regarder dans les textes qui viennent. La grâce de Dieu n'est pas présentée comme sélective. Et la grâce de Dieu ne peut être grâce que si elle est offerte à tous. Sinon, elle n'est pas grâce, elle est privilège. C'est une autre affaire, déjà. Si Dieu essaie de sauver tous les êtres humains et n'y parvient pas, cela signifie que sa puissance est limitée. Il n'est pas tout puissant et souverain. Il est donc atteint dans sa divinité. Si Dieu essaie de sauver les hommes et qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'est pas tout puissant. S'il n'est pas tout puissant, la notion de souveraineté absolue de Dieu se trouve ébranlée. Alors, est-ce qu'il est Dieu ou pas? S'il n'arrive pas à sauver les hommes, ou bien à forcer ceux qu'il a choisis à être sauvés, selon cette idée-là, ben alors où est sa puissance? Mais d'un autre côté, s'il n'essaye pas de sauver tous les êtres humains, perdus par nature, et qu'il mérite, sa grâce est limitée. Et si la grâce est limitée, est-ce que c'est encore la grâce? Et on peut aller plus loin, ça remet aussi en cause, évidemment, le ministère du Christ. Est-ce que le sacrifice du Christ était suffisant pour sauver tous les hommes? Si Dieu n'en sauve que quelques-uns, pourquoi est-ce que le sacrifice du Christ n'en sauverait que quelques-uns? Est-ce que le sacrifice du Christ n'est bon que pour un certain pourcentage de gens? Après ça, c'est épuisé. Ça remet en cause la qualité du ministère du Christ pour l'humanité, dans son sacrifice et bien entendu dans son intercession qui donne suite. Juste après, je vous ai mentionné les textes qui sont généralement utilisés pour soutenir cette idée-là. 1 Corinthiens 2,14, Romains 8, 28 à 30, Romains 9, 10 à 23, Éphésiens 1, 3, 5, 1 Corinthiens 2 et puis d'autres. Là, ce sont les principaux qui sont utilisés pour appuyer cette notion-là. Mais encore une fois, vous en trouvez d'autres. Et dans les pages qui suivent, j'ai mis un certain nombre de textes. Il y en a 4 pages, mais il y en a encore bien d'autres. C'est absolument pas exhaustif. J'en ai pris un certain nombre pour vous montrer que ce ne sont pas des textes isolés dans les Écritures qui présentent cet enseignement biblique, qui ne reçoit pas la prédestination. Donc j'en ai mis un certain nombre pour vous montrer que ce n'est pas caché dans un coin des Écritures. J'aimerais regarder avec vous l'enseignement biblique là-dessus. Je l'ai résumé en 8 points avec un certain nombre de textes. Le premier, c'est la notion de souveraineté de Dieu. Alors, cette notion-là, elle n'est pas difficile. Je n'ai mis qu'un seul texte parce qu'elle est partout dans les Écritures. Vous pouvez trouver une foule de textes là-dessus. 1 Timothée, chapitre 6, verset 15.
Que Dieu suscitera au moment fixé. Il est le bienheureux, l'unique souverain. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa nature est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit jamais l'honneur et la puissance. Amen.
Merci. Voilà, le souverain, le seul souverain qui seul possède l'immortalité. Donc, on a là plusieurs caractéristiques de Dieu, c'est simplement pour souligner le fait qu'effectivement, les Écritures présentent la souveraineté totale et absolue de Dieu d'une façon incontestable. Cependant, le fait que Dieu ait véritablement donné le libre choix à l'être humain n'entame pas sa souveraineté.
C'est lui qui a décidé de donner le libre choix.
C'est ça. Ça semble limiter sa souveraineté parce qu'effectivement, ces créatures ont la possibilité de choisir de ne pas aller dans le sens que Dieu propose, celui qui donne la vie. Mais ça n'enlève rien à sa souveraineté.
Non.
On le verra un petit peu plus loin. Il y a une notion très importante que cette idée de prédestination détruit et qui est une notion biblique, c'est la notion de jugement. Donc, Dieu laisse le choix. Ce choix ne détruit pas sa souveraineté parce que le choix fait va inévitablement produire l'effet annoncé. Soit dans un sens, soit dans un autre. Et un jour ou l'autre, Dieu passera en jugement l'humanité entière. Le premier point, c'était souveraineté de Dieu. Ça, c'est pas difficile, je n'insiste pas là-dessus. Deuxième point, le libre choix de l'homme. Alors, il y a là quelques textes, on va en regarder quelques-uns. Le texte que j'ai mentionné ici, Genèse 2, 15 à 17, c'est ce texte dans la Genèse où, dès le départ, Dieu va responsabiliser Adam et Ève.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Merci. Tu mourras certainement, dit le texte littéralement, c'est-à-dire de la deuxième mort qui n'est pas la mort-sommeil, mais qui est la destruction complète. Donc ici, on a exactement ce dont on parle. Dieu est en train de donner un choix. Avec les instructions. Si tu vas là, voilà la conséquence. Si tu vas là, voilà la conséquence. N'y va pas parce que ça va conduire à la mort. Donc le départ est clair. Dès le jardin d'Éden, Adam et Ève ont un choix à faire. Un choix personnel et un choix éclairé parce que les informations relatives à ce choix leur sont données par Dieu lui-même. Ils les ont reçues directement de Dieu. On a la même chose dans Genèse 4, verset 7. On ne va pas le regarder. Où Dieu parle à Caïn et lui dit, ben, écoute, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Choisis de dominer sur le péché et ne pas te laisser embarquer là-dedans. On va regarder Deutéronome 30, si vous voulez bien. À la fin, Deutéronome 30, versets 15 à 20.
Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays donc vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui.
Merci. On a ici la même chose que dans le texte précédent, où Dieu donne le choix, il donne les deux possibilités. La vie, la mort, l'obéissance, la condamnation, et il supplie, choisis la vie par pitié. Mais Dieu ne va pas faire le choix à sa place. Il le lui présente pour qu'il le fasse. Et là, on est en plein Ancien Testament déjà, on est même pas encore dans le Nouveau. Hein. On va regarder Josué 24, 15, qui va dans le même sens.
Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Merci bien. Là, on a encore une situation où ce serviteur de Dieu invite de nouveau le peuple à faire un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Servir d'autres dieux signifie Dieu va se retirer avec la conséquence que ça a. Et là, il y a ce témoignage qui donne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour moi, c'est clair, je fais ce choix-là. Et ce n'est pas Dieu qui le lui impose, c'est un choix qu'il prend lui et auquel il invite les autres à se joindre. Maintenant, on va regarder dans le Nouveau Testament, dans Romains 7. Ce texte est intéressant parce qu'il est dans l'Épître aux Romains, justement. Et on prendra les textes du chapitre 8 et du chapitre 9 qui semblent parler de prédestination un petit peu plus loin. Vous remarquez qu'au chapitre 7, on est ici juste avant, c'est-à-dire dans le contexte immédiat des textes qui semblent parler de la prédestination. Au chapitre 7, il y a tout ce paragraphe où l'apôtre Paul explique sa situation. On va simplement lire 18 à 21, si vous voulez bien.
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Merci. L'apôtre Paul reconnaît ici qu'il n'a pas le pouvoir de faire le bien, mais il a la volonté. Autrement dit, il a la possibilité de choisir ce qu'il veut faire, mais il n'a pas la possibilité de le réaliser. Son choix va ouvrir la porte pour que Dieu lui donne le pouvoir qu'il n'a pas. Il dit, il y a en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc il est dans une situation inextricable, concrètement parlant, parce qu'il n'a pas la ressource. Mais il a la volonté. C'est insuffisant. Raison pour laquelle on a tout ce développement du Nouveau Testament, d'établir une relation avec Dieu, par laquelle il s'ouvre à Dieu pour que Dieu lui donne la force de faire ce qu'il veut faire, mais qu'il n'arrive pas à faire. Remarquez que Paul exprime ça au chapitre 7. Quelques versets plus loin, on verra tout à l'heure ces textes qui semblent parler de prédestination, juste après. Donc voilà un élément du contexte où on est. On va regarder un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Alors vous vous souvenez, dans Jean 6, il nous a raconté la multiplication des pains. Jésus essaie de faire comprendre par l'image du pain qui il est, quelle est sa mission. Au verset 40, il dit
« Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »
Merci. La vie éternelle est donc ici indiquée pour qui?
Tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils.
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Il y a donc des conditions. Croire, il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà un certain nombre de textes. Ce qu'on verra plus loin mentionne aussi souvent cette même notion, selon laquelle nous avons un choix. Nous avons un choix à faire et ce choix, Dieu ne va pas le faire à notre place. Le choix de la direction dans laquelle on veut aller, même si nous n'avons pas en nous la ressource pour y aller. Le fait de choisir et de se présenter à Dieu avec ce choix, va délier les mains de Dieu pour pouvoir agir sans briser notre liberté. La notion d'amour dans la relation avec Dieu est un élément clé. Parce que le fait de donner la liberté pour que l'amour soit réel n'enlève rien à la souveraineté de Dieu. Mais l'implication, elle va plus loin parce que si Dieu, comme le disent les tenants de cette idée de la prédestination, choisit d'une part qui va être sauvé et est capable, en tant que souverain, de mettre dans le cœur de ces gens la volonté de le suivre et ne va pas le mettre dans le cœur des autres, à ce moment-là, on a un problème grave parce que Dieu ne répond pas aux accusations de Satan. Les accusations de Satan, c'est que Dieu est un tyran et que sa loi n'est pas observable. Si je prends cette idée de la prédestination, alors le diable a gagné. Parce qu'effectivement, si Dieu ne m'oblige pas à être sauvé, je ne peux pas l'être. Et le diable dit, mais voilà, c'est ce que je dis depuis le début. Il dit, mais voilà, je te l'avais bien dit. Tu es obligé d'intervenir et de choisir à leur place pour les sauver. C'est donc la preuve que la loi de Dieu est inapplicable dans l'univers.
Juste pendant que je lis, parce que souvent, quand je parle avec Alice ou d'autres qui sont plus prédestination, ils disent oui, mais si Jésus a le choix, ça veut dire si l'homme a le choix, mm-hmm. ça veut dire que dans le fond, c'est pas Dieu qui a décidé qu'on se tourne, c'est pas avec la puissance de Dieu qu'on se tourne vers lui, mais c'est nous qui avons décidé. Si Dieu est souverain, donc il le sait. C'est lui qui va décider. Sinon, si ce n'est pas lui qui décide, il n'est pas souverain. Si ce n'est pas lui qui décide, mais dans le fond, il est souverain parce qu'il a décidé de nous laisser. Dieu aurait mis dans chacun de nous le désir de le connaître.
Exactement. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Athéniens. Paul est en train de faire son discours à Athènes. Actes 17, 24 à 27.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous.
Merci. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé tous les hommes et il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Donc Dieu ne s'est pas imposé, il a donné les moyens d'être trouvé. Vous me trouverez si vous cherchez de tout votre cœur, de manière à ce que tous les hommes puissent et le chercher et le trouver. Et il a mis ça dans le cœur de tous les hommes.
Dieu a mis, invitant les hommes à le chercher. C'est qu'ils reviennent toujours, donc, ça veut dire, quand il parle des hommes, on va voir d'autres versets, ou des gens, ou c'est son peuple, c'est toujours le peuple des élus.
Mais ce n'est pas dans le texte. Il est en train de parler aux païens d'Athènes, qui par définition ne sont pas des élus. Et il parle de tous les hommes, que les hommes le cherchent.
Puis des Arméniens, c'est quoi ça, des Arméniens?
Arméniens. J'ouvre la parenthèse, parce que j'aurais dû vous en parler plus tôt. Les réformateurs dont on parlait tout à l'heure, les principaux réformateurs du XVIe siècle, sont partis avec cette notion de la prédestination. Mais il y en est certains qui ont réagi contre. Arminius, par exemple. Son prénom, c'est Jacob. Jacob Arminius. Il a vécu dans la dernière partie des années 1500. Il est mort assez jeune. C'est un Hollandais qui était professeur d'université aux Pays-Bas et qui a réagi contre cette doctrine de la prédestination et qui a énoncé cet enseignement biblique du libre arbitre. Seulement, il a eu tous les réformateurs sur le dos, bien entendu. Mais comme il était à l'époque de la Réforme, le fait qu'il ait énoncé cet enseignement biblique contraire à la prédestination, alors il a donné, si vous voulez, naissance à cette école de pensée-là, qui s'oppose à la prédestination, ce sont les Arminiens. C'est la même chose, comme on dit les calvinistes, les luthériens, c'est-à-dire ceux qui suivent la pensée d'un tel. Les Arminiens sont ceux qui ont adopté cette théologie d'Arminius, selon laquelle nous avons un libre arbitre, et Dieu ne choisit pas qui va mourir et qui va vivre. Alors, en troisième point, j'ai ici un nombre assez impressionnant de textes qui indiquent que la grâce est offerte à tous. Sont sauvés cependant ceux qui l'acceptent. Ce qui est une autre manière de mettre en évidence la notion de choix. Et vous allez vous rendre compte que ces textes-là sont nombreux et parlent d'eux-mêmes. Vous vous rendez compte que les arguments qui sont donnés, même ils rentrent dans une certaine logique, ne collent pas avec ce que le texte dit. Et la plupart de ces arguments font dire au texte ce qu'il ne dit pas. Et comme je vous avais dit plusieurs fois, une des clés les plus efficaces pour répondre à des questions qui sortent d'un texte, lisez le contexte. Alors, tout à l'heure, on va prendre le texte de Romains 9. On ne peut pas prendre cette section-là et dire, voilà, c'est ça l'enseignement biblique. Non, mais qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après? Dans quel sens est-ce que ce mot est employé? J'ai besoin du contexte pour pouvoir le dire. Et je ne peux pas le sortir de là. Sinon, je me mets en faux par rapport à ce qui est écrit. Donc, la grâce est offerte à tous. Sont sauvés ceux qui l'acceptent. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a donc une condition. Quiconque croit. Jean chapitre 12, verset 32.
Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.
Dieu, en Jésus-Christ et par le ministère du Christ, attire tous les hommes à lui. Ça ne veut pas dire que tous vont répondre. Mais tous sont choisis pour être sauvés. Tous sont attirés à lui par le Christ. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous remarquez là encore une condition. On retourne dans Acte 17, un petit peu plus loin que là où on était tout à l'heure. Acte 17, verset 30.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir.
L'apôtre Paul est en train de dire ici, ce que Jésus a fait est un appel à tous les hommes, en tout lieu. Pas une catégorie d'élus. Tous sont élus pour être sauvés. Romains 1, verset 16. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, c'est-à-dire peu importe qui. Romains chapitre 3, verset 23-24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autrement dit, d'un côté, tous ont péché, pas certains, tous, et ils sont lesquels ? Tous les mêmes, gratuitement justifiés par sa grâce, c'est-à-dire que cette grâce est offerte à tous. Comment ? Par Jésus-Christ. Ce que les hommes vont en faire est une autre histoire, mais Dieu l'a offert à tous, c'est-à-dire à tous ceux qui étaient dans le péché. Même raisonnement deux chapitres plus loin, Romains 5, verset 18. C'est le texte qu'on avait déjà vu en parlant des deux Adam. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On ne parle pas d'une élite, là. On ne parle pas du peuple sauvé. On parle de tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Romains 11, verset 32. Romains 11, 32, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Une autre manière de dire, tous ont péché et se sont trouvés prisonniers du péché. Donc Dieu offre sa miséricorde à tous. Vous avez 1 Timothée 2, 5 et 6, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 4, 10. On va le regarder celui-là. 1 Timothée 4, 10.
En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le bienfaiteur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui se confient en lui.
Voilà. Alors, ma version dit, nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alors, ce texte est intéressant parce que l'apôtre dit ici, il est le sauveur de tous, mais surtout des croyants parce que c'est eux qui l'ont accepté.
Les autres ne croient pas, mais ils en profitent quand même.
Ben, ils en profitent dans le temps présent, effectivement, dans le sens où Jésus-Christ est présenté dans les Écritures comme celui qui maintient la vie, il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais ce texte nous dit que Jésus va être le Dieu vivant et sauveur pour tous les hommes, mais surtout les croyants, parce que c'est pour les croyants que ce sauveur sera utile, efficace. Donc je ne peux pas dire avec un texte pareil que Dieu n'est efficace que pour ceux qu'il sauve, Il est aussi pour les autres parce qu'il l'offre aux autres. Il est aussi le sauveur de ceux-là. Ça ne servira peut-être à rien parce que certains ne vont pas croire. Quiconque croit. Un autre texte dans Tite 2:11.
En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes.
Merci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Pour tous les hommes. 2 Pierre 3:9.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu ne va pas défavoriser les uns et favoriser les autres. Il veut arriver à ce que tous, même si ce ne sera pas le résultat final. 1 Jean chapitre 2 verset 2. On va lire le verset 1 et 2 pour avoir l'ensemble.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Tout le monde est inclus là-dedans. Seuls les croyants vont en bénéficier par la foi, mais c'est pour le monde, pour ceux du monde entier. Hébreux 7, 25.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Merci. Qui sont ceux qu'il peut sauver?
Ceux qui s'approchent
de lui. C'est-à-dire ceux qui ont fait le choix de s'approcher de lui et que Dieu va rencontrer dans leur démarche. On va regarder quelques textes dans l'Ancien Testament ici, dans Ézéchiel, qui sont assez clairs sur le même point. Ézéchiel chapitre 18. Et il est intéressant de noter que ce qui est décrit ici, c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 18, le verset 4.
Voilà, toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui devrait mourir.
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, là, vous avez quelque chose d'intéressant. Dieu dit, je suis propriétaire de toutes les créatures. Mais ceux qui vont mourir, ce sont lesquels? Ce sont ceux qui pêchent, c'est-à-dire ceux qui sont pris dans le péché et qui y reste. Un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 21.
Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra point.
Voilà. Il y a une condition, vous avez remarqué, qui n'est pas du ressort de Dieu, dans un premier temps. S'il observe toutes mes lois et mes pratiques, etc., il vivra. Pour pouvoir observer ça, il faudra qu'il se soit ouvert, lui, à Dieu par un choix personnel pour que Dieu lui donne la force de pouvoir l'accomplir. Celui qui vivra, ce n'est pas celui qui aura été élu par Dieu, par opposition à celui qui ne l'aura pas été, mais ce sera celui qui se sera ouvert à Dieu et avec qui Dieu aura pu réaliser son salut. Verset 32, même chapitre.
Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez.
Voilà. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Convertissez-vous donc et vivez. À partir du moment où je choisis de me tourner vers Dieu, c'est le sens du mot convertir, se tourner vers, à partir du moment où je me tourne vers Dieu, Dieu peut me donner la vie. Et là, j'ai une part qui est une part de choix. C'est offert à tous, mais ceux qui se convertissent en seront les bénéficiaires.
La suprématie de Dieu, on le voit, car je ne veux pas la mort. Dieu veut pas la mort.
La grâce qu'offre un Dieu d'amour et de justice est offerte à tous les êtres humains qui sont ses créatures. Ils ont le choix de l'accepter ou de la refuser, d'accepter le salut ou de choisir la conséquence du péché. Tous ne sont pas sauvés, mais tous peuvent l'être. Le salut est conditionnel. Il y a beaucoup de textes, hein? Je vous dis, j'en ai pris quelques-uns qui étaient les plus frappants. Il y en a d'autres. Alors, dans le point numéro 4, il n'y a pas de prédestination puisque ceux qui ont accepté le salut peuvent le perdre. On va regarder quelques textes. 1 Corinthiens 8, 11, c'est pratiquement mot à mot la même chose. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 11. Alors, il est question ici des viandes sacrifiées aux idoles, de ceux qui mangent et de ceux qui ne mangent pas. Peu importe la problématique qui est là, au verset 11, il est dit.
Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort.
C'est qui périra à cause de ce mauvais témoignage?
C'est le frère.
Le frère. On va dire que c'est quelqu'un qui fait partie des élus. Mais il peut être perdu celui-là. Parce que s'il tombe à cause du témoignage et qu'il reste dans cette situation-là, il périra. Romains 14, verset 15 a exactement la même idée. On va regarder Hébreux 10, si vous voulez bien, versets 26 à 29.
Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce?
Merci. Il s'agit là de quelqu'un qui a accepté le salut en Jésus-Christ, qui a été couvert par le sang de Jésus, pour reprendre l'expression ici, le sang de l'Alliance. C'est donc quelqu'un qui a été sauvé en Jésus-Christ, mais qui a délibérément renié tout ça et qui a outragé l'Esprit de la grâce. Donc il s'agit là d'un choix final et délibéré. Ce n'est pas un accident de parcours ou une chute en chemin. C'est véritablement un choix délibéré du rejet du salut qu'il a reçu. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a plus rien. Si tu rejettes, il se retrouve en fait dans le cas que l'on a par ailleurs expliqué, qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Et il s'agit là véritablement de quelqu'un qui était sauvé, qui avait accepté Jésus comme son sauveur. Donc cette idée de « une fois sauvé, toujours sauvé », ça ne marche pas. Romains 11, ça c'est un texte assez clair aussi. Il est en train de parler là des Juifs, dans Romains 11. Et il parle des Juifs avec une image en disant « voilà, ils sont comme une branche qui a été retranchée ». Et les croyants sont ceux qui sont greffés de nouveau. Et alors il dit, par exemple, dans Romains 11, verset 17, on va lire 17 à 22, si vous voulez bien.
Ainsi, quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté en leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Toi, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi fusse hanté. Cela est vrai, ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché.
Donc, il parle des branches hantées, c'est-à-dire greffées. Les branches qui étaient d'origine, c'est-à-dire le peuple juif, les Hébreux, qui ont été coupées parce qu'ils n'avaient pas la foi, pour cause d'incrédulité. Et les païens, les branches qui ne sont pas les branches naturelles, qui vont être greffées sur le tronc. Mais l'apôtre Paul leur dit, si toi, qui viens des païens, qui est greffé sur le tronc, tu te comportes avec autant d'incrédulité que les juifs, il va t'arriver la même chose qu'à eux. C'est-à-dire que si tu demeures ferme dans cette bonté, ça va, autrement, tu seras aussi retranché. Autrement dit, ils vont recevoir le salut, mais n'étant pas enracinés, n'ayant pas conservé cette relation de salut avec le Christ, et ils vont finalement être retranchés aussi. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Donc c'est un passage extrait de la lettre que Jésus adresse par Jean à l'église d'Éphèse, où il dit au verset 5.
Alors rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas.
À moins que tu ne te repentes. Donc c'est un appel à la repentance. Et vous avez remarqué, si cet appel n'a pas de réponse favorable, alors je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, c'est-à-dire que finalement, ta lumière va s'éteindre et c'est perdu. Dieu laisse le choix, mais il invite à revenir à lui parce que c'est la seule solution pour avoir la vie. Apocalypse 2, versets 10 et 11. Là, c'est la lettre suivante, la lettre à Smyrne.
N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de la victoire.
11.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La seconde mort ne causera pas de mal.
Là encore une fois, celui qui ne vit pas la seconde mort, c'est lequel? La seconde mort, c'est-à-dire la destruction permanente, c'est celui qui est vainqueur. Pour être vainqueur, il dit ce qu'il faut faire. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Si tu n'es pas fidèle, ça n'ira pas. Tu vas perdre ce que tu as. Chapitre 3, verset 11.
Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
Voilà. Une mise en garde. S'il y a une mise en garde qui est donnée, c'est que la possibilité est encore là. C'est qu'après avoir cru, quelqu'un prenne sa couronne, donc l'image du salut, parce qu'il s'est fait séduire dans quelque chose qui ne correspond pas à l'enseignement de Dieu. Autrement dit, une fois sauvé, toujours sauvé, ne correspond pas à l'enseignement des Écritures. Tous sont appelés au salut et Jésus a pourvu au salut de tous par son sacrifice et par son ministère suffisant pour cela. Mais même ceux qui l'ont accepté peuvent le renier et rompre ainsi leur relation avec Jésus par laquelle ils ont été sauvés. Le salut n'est pas fragile grâce à l'amour divin, mais notre choix à l'égard de Jésus comme notre sauveur sera toujours respecté par Dieu. Alors le point 5, la réalité du jugement de Dieu dans les Écritures détruit l'idée de prédestination. Les Écritures, depuis le début, parlent d'un jugement. Si Dieu choisit qui est perdu et qui est sauvé, à quoi sert le jugement? Alors, psaume 69. Verset 29. Alors là, c'est un psaume dans lequel on voit la colère de David contre ses ennemis. Et il va nous donner une indication intéressante en rapport avec le jugement et les livres dans le jugement. Psaume 69, verset 29.
Que leur nom soit rayé du livre des vivants, qu'ils ne soient pas inscrits parmi les justes.
Il y a ici un livre de vie dans lequel sont inscrits les justes. Et vous remarquez, on peut en être retiré de ce livre-là. L'Apocalypse dit d'ailleurs exactement la même chose. Dans Apocalypse chapitre 3, on peut être retiré du livre de vie. Apocalypse chapitre 3, verset 5.
Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père, de ses anges.
Qui est-ce qui ne sera pas effacé du livre de vie? Celui qui vaincra.
Le vainqueur, c'est à la mort, finalement. Parce que le vainqueur, c'est pas parce que là, moi, je vis, je crois en Dieu que je suis vainqueur là, parce que j'ai été ressuscité en Jésus. Mais c'est parce que là, j'ai été capable de suivre la loi jusqu'à la... de croire en Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Là, je suis vainqueur.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ouais. Oui, c'est juste. Cependant, je n'ai pas besoin d'attendre de mourir pour avoir l'assurance du salut. Tant que je reste dans l'alliance avec le Christ, et quand je dis dans l'alliance avec le Christ, c'est-à-dire non seulement dans la réception par la foi du salut, mais dans la vie conséquente avec ça, je sais que je suis couvert par la justice de Christ. Alors, le vainqueur, ce n'est pas seulement celui qui arrive à la mort dans l'obéissance, c'est celui qui est vainqueur aujourd'hui et demain et après-demain et chaque jour jusqu'à ce que.
La personne me disait, je suis content que Dieu... que mon salut soit, que ce soit Dieu qui m'a choisi, parce que moi, si je me fierais juste sur moi, je peux tomber demain. Là. Tandis que là, si Dieu m'a choisi, je suis sûr de mon salut. Il met sa foi sur Dieu. C'est Dieu qui m'a sauvé, donc je tomberai
pas. Moi, j'ai rien à faire.
Ça le rassurait de penser comme ça.
C'est cette même idée de souveraineté qui revient d'une autre façon, ça. Ce qui est juste et faux en même temps, parce que je vous ai donné cette illustration-là. À partir du moment où je scelle mon alliance avec Dieu, avec Jésus-Christ, par le baptême et l'acceptation par la foi de ce qu'il a fait pour moi. J'entre dans l'alliance. Mais dans l'alliance, c'est comme un mariage. Ce n'est pas parce qu'on est fâché aujourd'hui que je vais divorcer et puis c'est fini. On est dans l'alliance. Et je vous avais donné cette image. Si je monte dans l'ascenseur et que je tombe dans l'ascenseur, jusqu'où je vais tomber? Jusqu'au plancher de l'ascenseur qui continue à monter. Mais si je monte par les escaliers et que je me penche et que je tombe en bas, je tombe jusqu'en bas. À partir du moment où je suis justifié, ayant accepté le plan de Dieu pour l'être, je suis dans l'ascenseur. Mais je peux décider d'en sortir. Alors là, je ne monte plus. Alors à ce moment-là, je ne rentre plus du tout dans le schéma dont vous parlez, parce que je vais pécher, c'est sûr, mais j'ai dans les Écritures les moyens pour en être délivré. Dieu m'a appelé, mais il m'a appelé comme il appelait tous les hommes. La suite de l'histoire va dépendre de ma réponse, pas de lui ce qu'il va faire pour m'empêcher de tomber. C'est une autre manière de dire, une fois sauvé, toujours sauvé. C'est une autre manière de l'emballer. Et ça a le gros avantage, pour ceux qui croient à cela, de ne pas considérer la loi de Dieu comme étant quelque chose auquel Dieu tient, qui est important pour moi. Parce que si de toute façon je n'arrive pas à l'observer, Dieu va me rattraper et puis c'est bon. Donc une fois sauvé, toujours sauvé. Que j'observe la loi de Dieu ou pas, que je sois obéissant ou pas, c'est entre les mains de Dieu. Qui est une manière de donner l'impression de donner gloire à Dieu, mais d'avoir un salut qui n'est pas le salut biblique. Comme je vous avais dit il y a déjà longtemps, quand on avait commencé à étudier, il ne faut pas seulement que je me base sur certains textes pour comprendre un enseignement biblique, il faut que je voie si cet enseignement-là s'harmonise avec les autres. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de cet enseignement-là par rapport à Jésus, par rapport au plan du salut. Est-ce que c'est cohérent dans l'ensemble? Si ce n'est pas cohérent avec l'ensemble, il faut que je voie ma copie. Je ne peux pas prendre ces enseignements-là isolés les uns des autres. Par rapport au jugement, regardons Daniel 7. Je ne vais pas reprendre toute l'explication de la prophétie de Daniel 7 qui parle du jugement, Daniel 8 aussi, mais il y a un passage dans Daniel 7 qui est clair sur l'annonce d'un jugement. Versets 9 et 10.
Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts.
Merci. Ici, il est question du jugement final de Dieu à la fin. Des indications nous sont données dans les prophéties pour savoir quand ça se passe. Mais il y a un moment où, devant tous les êtres célestes, le jugement s'ouvre. Et les juges s'assirent. Et les livres furent ouverts. Alors, si on va dans Apocalypse 20 maintenant, on va retrouver la même chose avec un petit peu plus de détails. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Autrement dit, il y a un jugement, et le jugement va se faire en comparant le livre, qui est le livre de vie dont on a parlé tout à l'heure, où sont inscrits le nom des justes, et on va comparer ça, leur profession de foi, autrement dit, avec les livres, et dans les livres, il y a quoi? Il y a leur vie. Est-ce que leur vie est conséquente avec leur profession de foi? Est-ce que leur profession de foi est authentique au point que Dieu ait pu changer leur vie? Si leur profession de foi n'est pas authentique, Dieu n'aura pas pu changer leur vie. Quelqu'un qui va accepter de remettre son avenir et sa vie éternelle entre les mains de Dieu parce qu'il reconnaît qu'il ne peut pas, va être inscrit dans le livre de vie. Parce qu'il a accepté que Dieu soit son sauveur. Maintenant, est-ce que sa vie est conséquente avec cette profession de foi? Ou bien est-ce que sa vie est restée comme avant? Si la vie de cet individu est restée comme avant ou est pire, sa profession de foi n'a eu aucun effet. Donc ce n'était pas une profession de foi authentique, parce que sinon elle aurait permis à Dieu d'exercer en lui une œuvre de réforme et de transformation. À un niveau ou à un autre, le bon larron sur la croix, il a reçu Jésus-Christ, mais n'a pas eu beaucoup de temps pour que Dieu fasse de l'œuvre en lui. Donc ce n'est pas le niveau de transformation que Dieu va réaliser qui importe, c'est de savoir quel chemin cette personne a pris et de savoir si la profession de foi qu'il a eue a été authentique au point de permettre à Dieu d'agir dans sa vie. Vous vous rendez compte que si Dieu, selon la prédestination, choisit celui-ci est perdu, celui-ci est sauvé, à quoi sert le jugement? Le jugement, en fait, dans le ciel, et on l'a dans Apocalypse 14, par exemple, il est question du « l'heure de son jugement est venue ». Mais c'est à la fois le jugement que Dieu fait et le jugement dont Dieu est l'objet, parce que Dieu est jugé aussi. Dieu est jugé parce qu'il est condamné par Satan. Donc dans le jugement final, on avait vu ça en rapport avec Job d'ailleurs, c'est aussi le jugement de Dieu qui est accusé. Est-ce que Dieu est véritablement accusable? Est-ce que son amour est intact? Est-ce que sa justice est intacte? Donc le jugement est nécessaire, et c'est le jugement de l'humanité, et en particulier des sauvés, qui va faire la preuve de ça ou non. Comme dans Job. Job va devenir finalement un avocat de Dieu, tout pécheur qu'il est. Si Dieu a décidé à l'avance qui est perdu, qui est sauvé, c'est une farce cette histoire-là. Si le salut ou la perte des humains est prédéterminé par Dieu, le jugement de Dieu n'a plus de sens. La notion de jugement est présente dès le début des Écritures et jusqu'à la fin du conflit entre Christ et Satan. Le rôle de Jésus comme notre avocat et le jugement final annoncé par les prophètes devient une moquerie et l'autorité de la parole de Dieu est remise en question. Si Dieu parle d'un jugement depuis le début, Genèse 3 par exemple, jusque dans l'Apocalypse, qui est un thème récurrent tout au travers des Écritures, la prédestination enlève toute cette notion-là de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai un problème avec ça. Comment comprendre Romains 8, 28, 29? On va le regarder rapidement. Qui est donc un de ces textes qui semble parler de la prédestination.
Nous savons en nous que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il était ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire.
Merci. L'apôtre ici mentionne dans le texte le moyen de le comprendre. Le mot prédestiné est à comprendre comme connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Alors, on a ici, derrière le mot prédestiné, cette notion de préconnaissance et non pas la notion de déterminisme. C'est-à-dire que Dieu, le fameux Dieu souverain dont on parlait tout à l'heure, qui est hors du temps, a la capacité de savoir et de voir à l'avance le choix que je vais faire et ce que je vais faire de mon libre choix. Le fait qu'il le sache à l'avance ne me détermine pas moi. Alors, je vous donne un exemple que j'ai vécu, qui m'avait frappé à l'époque. J'étais dans un camp de jeunes et j'étais parmi les moniteurs de ce camp. Bon, les jeunes étaient tous dans la cour là dehors, où il y avait un grand espace, ils étaient en train de rigoler, ils jouaient. Il n'y avait pas une activité particulière, mais ils étaient en train de courir les uns après les autres, ils rigolaient. Et puis, mon frère qui était directeur du camp reçoit un appel téléphonique dans lequel on lui dit que la sœur d'un des jeunes, là, vient de mourir dans un accident de voiture. Et moi, j'étais à la fenêtre, adossé à la fenêtre, et je voyais dehors les jeunes, et j'ai vu le jeune en question qui courait, qui rigolait avec les autres, Il était fou de joie, ça jouait. Et je me suis dit, pauvre gars, dans un moment, il sera effondré en pleurs. Est-ce qu'il a été effondré en pleurs parce que je le savais d'avant? Non. Le sachant d'avance, je pouvais savoir ce qui allait arriver, sans pour autant choisir à sa place ce qui va arriver. Avec Dieu, c'est la même chose. Le fait que Dieu sache à l'avance ne veut pas dire que je n'ai pas d'autre choix que ce que Dieu sait qui va arriver. C'est moi qui choisis. Et Dieu sait ce que je vais choisir. Dans le sens ici de prédestiné, vous avez la notion de connu d'avance que le texte utilise pour nous faire comprendre que sachant quel choix nous allons faire, Dieu va agir en conséquence.
Si Dieu sait tout à l'avance, parce qu'on parle de préscience en ce moment, pourquoi tu as créé Satan?
Il faut juste faire attention quand on pose cette question-là, de ne pas sous-entendre que Dieu est responsable du mal. Il y a un passage dans l'épître de Jacques qui est là pour nous empêcher de faire ce pas qui consiste à dire ou à sous-entendre que si Dieu a créé Lucifer en sachant qu'il allait tomber et faire toute cette misère, Dieu est responsable du mal. C'est Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. Alors là, il est question de nous, il n'est pas question de la création de Satan, à proprement parler, mais la barrière est là. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc Jacques est en train de dire, n'essayez pas d'insinuer que vous êtes pécheur ou que vous tombez parce que c'est Dieu qui vous a poussé dedans. Et ça répond à la question de Dieu endurcit le cœur de Pharaon, par exemple. On va y revenir, il y a encore quelque chose là-dessus. C'est pas? Dieu n'a endurci le cœur de personne. Dieu n'a poussé personne à tomber. Ce qui est très important de comprendre, je crois, dans cette question-là, c'est justement le fait que Dieu, tout souverain qu'il est, ne violera jamais le libre arbitre de l'homme. De la créature, même céleste, et que l'amour de Dieu va au-delà du mauvais choix que les uns et les autres peuvent faire. Exemple, un homme et une femme, ils veulent un enfant. Cet enfant, ils l'aiment avant même qu'il soit né. Et vous savez ce que ça veut dire, un enfant qui va naître, c'est toute la vie qui tourne là autour, on s'y prépare, on lui choisit un nom, on écoute son cœur, on l'aime cet enfant avant même qu'il naisse, mais on sait très bien que cet enfant va peut-être naître mal formé, que cet enfant va peut-être mourir dans sa jeunesse, écrasé par une voiture sous mes yeux, devant la maison. Cet enfant va peut-être avoir un cancer dans sa jeunesse. Cet enfant va peut-être faire tous les mauvais choix possibles et se retrouver vagabond d'une prison à l'autre parce qu'il a fait toutes les pires choses que l'on peut imaginer. Je le sais. Est-ce que ça va empêcher cet homme et cette femme d'avoir un enfant parce qu'il l'aime? Non. L'amour de Dieu dépasse ce que nous pouvons comprendre. Regardez l'exemple de Jésus avec Judas. Jésus, quand on lui a amené Judas et qu'on lui a présenté Judas comme étant un homme fantastique, il l'a pris comme disciple. Mais Jésus savait exactement qui allait le livrer en prenant Judas. Il l'a pris quand même. Il lui a même donné un ministère à accomplir de sa part avec une puissance qui venait de Jésus pour chasser des démons, pour faire tout un tas de choses. Jésus a utilisé Judas dans un ministère divin pendant un certain temps en sachant très bien que tout ce que Jésus allait faire pour lui, pour l'attirer à lui, ne servirait à rien, mais il l'a fait quand même. Dans le texte de Romains 8, La clé de ce texte est de comprendre la différence entre prédestiné et connu d'avance. L'apôtre Paul mentionne dans ce texte même le moyen de le comprendre. Le mot prédestiné est à comprendre selon le contexte comme connu d'avance. L'idée de la prédestination confond prédestination déterminisme, et préconnaissance, omniscience. L'omniscience est un attribut de Dieu par lequel il connaît le passé, le présent et l'avenir parce qu'il est hors du temps. Et on a ce texte de 2 Pierre 3, « Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Et le texte de 1 Pierre 1, 2 aussi va dans le même sens. 1 Pierre 1, 2.
Excusez-moi. Quand on dit, mettons dans le texte, hein, ceux qu'il a connus d'avance, donc il savait, il oui. les a aussi prédestinés. Il les a connus d'avance parce qu'il savait, mais peut-être oui. les a prédestinés aussi à être semblables à l'image. Il les a...
Dieu savait, par exemple, que Denise, à un moment donné, allait recevoir Jésus comme son sauveur. Il n'avait donc pas besoin d'attendre qu'elle le fasse pour que le sort de Denise, en ce qui le concerne, soit clairement réglé. Avant que vous naissiez, Dieu savait que vous alliez accepter le Christ et par conséquent, il n'y avait pas besoin d'attendre que ce choix soit fait pour que Denise, en ce qui concerne Dieu, puisse se réjouir de son salut. 1 Pierre 1, 2 nous donne la même idée, je crois. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Voilà, tous ces gens, ces élus, selon la préscience de Dieu le Père. Ils ont été élus, ils ont été destinés au salut, parce que Dieu savait qu'ils allaient faire ce choix. Il a prévu qu'ils allaient faire ce choix, permettant à Dieu de les destiner à la vie éternelle qui était promise. Alors, psaume 139, évidemment, c'est la version Ancien Testament de la même notion. Un beau psaume, d'ailleurs. Versets 15 et 16. Verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Ce n'est pas que Dieu a écrit ma vie à l'avance et que je suis préprogrammé comme un robot pour suivre ce que Dieu a écrit à l'avance, mais Dieu a écrit à l'avance parce qu'il sait ce que je vais faire. » Il y a ce texte dans 2 Corinthiens 3, c'est ce que je cherchais, où l'apôtre Paul parle des Juifs qui lisent l'Ancien Testament. Et devant eux, il y a un voile qui les empêche de voir. Verset 14. Mais ils sont devenus, il parle des Juifs, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La conversion, c'est le choix d'un nouveau parcours dans lequel Christ conduit et domine. Seulement, où est-ce que j'en suis sur ce parcours? Vous connaissez le parcours du pèlerin, là, de John Bunyan? Bon, je peux vivre la conversion, prendre le bon chemin, m'asseoir au bord du chemin et dire, voilà, je suis converti, c'est bon. Une fois sauvé, toujours sauvé. Je suis dedans. Et ma conversion, elle devient quoi? Ma conversion devient un fossile parce que je m'arrête là où je suis et ma conversion n'est plus une avance en avant. Et là, dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul insiste, on retrouve cette expression constamment dans l'Épître aux Éphésiens, notre expérience spirituelle est une marche. Si je m'arrête de marcher, ma conversion est derrière moi, sans aucun doute, mais n'est plus dynamisée par une marche qui va me faire grandir là-dedans. Si j'arrête de grandir là-dedans, eh bien, le voile se ferme, une puissance d'égarement tombe sur moi, et quand je lis mes affaires, je les lis avec ce voile parce que je ne veux pas voir plus loin. Ce qui va arriver avec ma conversion, avec ça, je ne suis personne pour le dire. Mais la conversion, ce n'est pas un truc que j'ai, que je mets dans ma poche. Ma conversion, c'est une marche constante avec Dieu dans une nouvelle direction. Mais si je m'arrête de marcher, ben je ne vais pas voir plus clair dans cette histoire de prédestination que je ne vais vouloir accepter le sabbat, que je ne vais vouloir accepter le scénario biblique de la fin des temps, parce que ça vient en travers de ce que j'ai jusque-là, et comme je n'ai rien d'autre, je bloque. Pour aller un petit peu plus vite, je vais prendre un raccourci. Okay. Et je vais vous lire ce qu'il y a sur cette page numéro 3 à propos. Le numéro 7, c'est comment comprendre Romains 9, 20, 10 à 23. Je ne vais pas vous le relire. C'est un des textes principaux qui est utilisé pour cette notion de prédestination. Je vous donne juste un extrait. Hein. Et que dire, verset 22 ? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple », etc. Alors, il y a tout ce paragraphe qu'il faudrait lire. Je vais vous lire ce qui est ici, comme ça vous aurez le raccourci, et c'est assez succinct. Le contexte permet de comprendre l'argumentation de l'apôtre Paul. Il s'adresse aux chrétiens d'origine païenne principalement, qui se considèrent comme la solution de rechange de Dieu pour le salut après le rejet du peuple hébreu. Paul cherche donc à leur montrer que Dieu les avait choisis aussi bien que les Juifs pour le salut. Dans sa souveraineté, Dieu a choisi tous les humains pour le salut, et non pas seulement les Juifs, comme ils aimaient à le croire et à le faire croire. Paul montre alors qu'au travers de choix que les humains ont fait dans l'histoire d'Israël, Dieu a poursuivi son plan pour montrer sa toute-puissance pour offrir le salut à tous. Il y a dans le paragraphe en question référence à des textes de l'Ancien Testament. Paul essaie de faire comprendre, ces gens ont fait leur choix, Dieu le savait à l'avance, ça n'a pas empêché Dieu de travailler et d'accomplir son plan, soit avec ces gens, soit sans ces gens-là. Exemple, j'ai aimé Jacob et haï Ésaü. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont prédestinés? Mais Jacob a accepté l'appel au service et Ésaü a rejeté l'alliance et le sacerdoce pour Dieu en rejetant le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, en fait, n'oubliez pas, était un appel de Dieu, était une mission que Dieu apportait à l'aîné d'être le prêtre pour lui. Ésaü met tout ça par-dessus bord pour un plat de lentilles, il s'en fiche. Jacob, lui, le chérit. C'est son choix personnel avec lequel Dieu a quand même accompli son plan. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais le texte montre d'abord que le cœur de Pharaon s'endurcit. Vous avez cette expression-là 6 fois, le cœur de Pharaon s'endurcit. Et une seule fois, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. La 7e fois seulement, il dit que Dieu endurcit. Dieu endurcit dans le sens où, plaçant un humain devant un choix à faire, il va hâter sa condamnation en l'obligeant à choisir ce qu'il aurait choisi de toute manière à cause de la dureté de son cœur. Pharaon avait le choix et Dieu a respecté ce choix et l'a utilisé pour sa gloire. C'est la même chose dans ce contexte, bon, romain en question, où les Juifs se sont endurcis par rapport à Jésus en rejetant le salut par la foi qu'il leur apportait. C'est ce que Dieu va faire aussi à la fin des temps par la crise finale avant le retour de Jésus. C'est-à-dire que la crise finale va amener des gens à prendre la position qu'ils auraient prise de toute façon, soit pour Dieu, soit contre Dieu.
Quand on dit dans la 7e fois seulement, il dit Dieu a hâté.
Oui.
Il ne l'a pas influencé.
Non. Il l'a mis dans une situation. Il n'a pas déterminé, il n'a pas choisi pour lui. Ouais. Il l'a mis dans une situation où il allait finalement révéler ce que son cœur voulait vraiment. Et finalement, c'est l'histoire de la motte d'argile et de la motte de beurre. Vous prenez un paquet d'argile, vous mettez ça au soleil, qu'est-ce qui va arriver? Il va durcir. Vous prenez une motte de beurre, vous la mettez au soleil, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fondre. Elle va être exposée à la même chose que la motte d'argile. Mais sa nature va produire un résultat différent. Autrement dit, des êtres humains exposés à la même action de Dieu, exposés à la même grâce de Dieu, exposés à la même parole de Dieu, vont avoir des réactions différentes parce que dans leur cœur, Certains vont être ouverts à la grâce de Dieu, vont s'y ouvrir de par leur choix, et d'autres vont dire « non, j'en veux pas ». La confrontation à l'action que Dieu va mener va simplement les amener à prendre le choix qu'ils ne prennent pas maintenant parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de le prendre, mais l'action de Dieu les oblige à le prendre maintenant. Dans l'image du potier, Paul ne dit pas que Dieu choisit les uns et pas les autres. Il montre que malgré son choix d'utiliser les Juifs en premier à son service, Dieu ne considère pas les païens comme rejetés, même si les Juifs les considèrent comme méprisables. Un peu plus tôt, Paul écrit, alors là, vous tournez quelques chapitres avant, dans la même épître, au chapitre 2, au verset 11, il est dit, « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. » Donc Dieu prend tout le monde égal et propose le même salut à tous. On ne peut pas dire qu'au chapitre 2, il n'y a pas de favoritisme, mais qu'au chapitre 9, il en a prévu à la destruction, il en a prévu au salut. Si vous regardez maintenant la suite du texte, par exemple, à partir du verset 29, dans Romains 9, on a quelque chose qui est intéressant. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Il introduit ici une condition. Il dit, si Dieu n'avait pas fait quelque chose, laissé une postérité, etc., nous aurions complètement disparu. Notre choix nous aurait complètement éliminés. Donc, il introduit ici une condition montrant par là que l'homme a une part dans ce qui va arriver. Vous allez un petit peu plus loin, ben même les versets suivants. Alors, je vous rappelle ici, il est en train de parler à des païens et il parle des juifs. Que dirons-nous donc? Les païens, ils ne cherchent pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, je mets en sillon une pierre d'achoppement. Ils ont fait un mauvais choix, et par conséquent, ils se sont écrasés le nez sur la pierre d'achoppement. Dans le même contexte, un petit peu plus loin, au chapitre 10, à partir du verset 8, Paul continue. Verset 7, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est dit dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a donc aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même sauveur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on est toujours dans le même contexte, il parle aux mêmes gens, on est quelques versets plus loin. Alors, dans le passage qui est utilisé pour soutenir la notion de prédestination, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler de gens prédestinés à être perdus ou prédestinés à être sauvés. Il est en train de dire, on a ici des gens avec qui Dieu va accomplir son plan, que eux embarquent ou que eux n'embarquent pas. Et s'ils rejettent, eh bien ils seront détruits. S'ils acceptent, ils vont être sauvés, Dieu va les utiliser, parce que, comme on vient de le voir, si tu confesses, si tu crois, alors tu seras sauvé aussi. Et il termine en disant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il ouvre la porte à tous les quiconques qui invoquent et qui croient, mais sincèrement. Les Juifs l'ayant fait, par leurs propres œuvres, en comptant uniquement sur eux, le vrai croyant, lui, va faire confiance à la grâce de Dieu, ensuite de choix que lui-même va accomplir. Donc ce passage-là, en fait, ne parle pas de prédestination, il ne parle pas d'un choix prédéterminé que Dieu fait, puisque dans le même contexte, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de favoritisme et que tous ceux qui l'invoquent sont prêts à être sauvés. Donc vous pourrez relire les passages en détail. J'aimerais juste terminer avec quelques éléments par rapport à la notion d'élection. C'est le point 8. L'élection est pour tous, elle s'applique aux croyants, elle les met à part pour le service. La notion d'élection est souvent employée par les tenants de la prédestination comme liée essentiellement au salut. Je suis élu pour être sauvé. Mais cette notion d'élection, elle va beaucoup plus loin que le salut. Elle va jusque dans l'appel au service. On a ça, par exemple, déjà dans l'Ancien Testament, avec le peuple hébreu, qui était élu pour ça. Alors, Dieu sait à l'avance le choix que chacun fera finalement par rapport au salut. Dieu savait que Judas allait le trahir, mais il n'a cessé de l'inviter à la vraie conversion et lui a aussi donné de le servir pour un temps. Dernière Pâque, et puis il lui a lavé aussi les pieds. L'élection n'est pas la création d'une élite de sauver par grâce à l'exclusion des autres, mais la sanctification, la mise à part de ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel pour l'accomplissement d'une mission de témoin de la grâce et du salut de Dieu pour en sauver au moins quelques-uns. Référence à un texte de l'apôtre Paul qu'on va regarder. Regardez par exemple Ésaïe 43. Ésaïe 43, un texte intéressant où on a cette notion-là. Ésaïe 43, 21. Au milieu du verset 20, il dit « Parce que j'ai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. » L'élu, le peuple élu, il l'a appelé pour quoi faire ? Pour publier ses louanges. C'est-à-dire le faire connaître auprès des autres et répandre la connaissance de sa loi. Exode 19, ça c'est en rapport avec l'élection du peuple juif. Pour reprendre le vocabulaire de l'élection. Et là, il va qualifier ce peuple. Exode 19, versets 5 et 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Alors, Dieu leur dit ici, « Si vous gardez mon alliance, donc c'est conditionnel à leur choix, dessus l'alliance, alors vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Mais vous serez quoi ? Le texte dit, un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur ? C'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Autrement dit, le peuple entier devait servir d'intermédiaire entre Dieu et le reste de l'humanité qui n'avait pas encore entendu parler de la loi de Dieu. Et l'apôtre Pierre va reprendre ce passage dans 1 Pierre 2, 9 et 10, et va être extrêmement clair sur la mission que les chrétiens ont parce qu'ils vont recevoir le même mandat. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, dit ceci. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Il parle là à des païens convertis qui se considèrent comme des chrétiens de deuxième catégorie parce qu'ils ne font pas partie du peuple élu. Et Pierre est en train de leur dire, par votre acceptation de Jésus comme votre sauveur, ce que l'élection du peuple hébreu est maintenant la vôtre. Et il va reprendre l'expression de l'Ancien Testament pour le peuple hébreu et à leur donner le sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis, c'est vous. Et pas pour être une décoration de nouveau, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, en rappelant qu'ils n'avaient pas miséricorde. Maintenant, ils l'ont. Leur tâche, en tant que peuple élu, c'est pas de dire « on est sauvé, t'es perdu », mais en tant qu'élu pour servir. Et ça, je crois que c'est important. La notion d'élection n'est pas le privilège de ceux qui ont été sauvés et pas les autres, c'est le privilège de ceux qui, ayant accepté Christ, reçoivent une mission par rapport à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Alors, pour rester là-dessus, on peut lire le texte de 2 Pierre, pour terminer, 2 Pierre 1, 10 et 11, qui souligne encore les mêmes éléments que ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, où il est dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Autrement dit, certains peuvent avoir la vocation, peuvent avoir l'élection, mais s'ils n'y persévèrent pas, la porte du royaume des cieux ne sera pas ouverte pour eux. Donc cette élection-là et cette vocation, cet appel au salut et au service doit devenir un mode de vie du croyant qui va persévérer jusqu'à la fin et qui sera sauvé.